Aujourd'hui, le hip-hop est un genre artistique majeur. Depuis sa naissance dans le Bronx dans les années 70, ce mouvement s'est rapidement répandu à travers le monde entier, jusqu'à devenir la nouvelle pop. Le hip-hop est à présent partout. TV, radio, médias, internet, et j'en passe. Certains d'entre vous sont même fans de cette culture. Mais en connaissez-vous ses origines et son histoire ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant.
Hip-hop Story, les labels. Rap-A-Lot Records. Avant que Jay Prince ne fonde Rap-A-Lot Records en fin d'année 1986, le son du sud des États-Unis était boycotté et méprisé. Les stations de radio de Houston de l'époque ne jouaient que ce que les dirigeants de l'industrie de New York leur avaient demandé. Pour cette raison, Houston n'était qu'un prolongement de tout ce qui se passait à New York. Prince, un street hustler qui vendait des voitures exotiques à des gangsters et des barons de la drogue, n'aimait pas la façon dont les choses étaient tournées, et a trouvé deux moyens de créer des stations locales pour diffuser ses artistes. James a fondé Rap-A-Lot pour garder son frère, l'un des membres fondateurs de Ghetto Boys, Sir Rap-A-Lot, loin de la violence de rue. Comme Prince connaissait de nombreuses personnalités importantes par le biais de son travail dans l'automobile, il réussit à se tailler une place de choix dans l'industrie de la musique. Issu des ghettos de Houston à Fifth Yard, Jay Prince a grandi dans un environnement de pauvreté et de violence quotidienne. Il devient hustler de rue et gère un business de vente de supercars. Il voulait que son frère rappeur du nom de Sir Rap-A-Lot reste loin de la vie de rue. Il lui fait une offre, il lui construit un studio s'il reste loin de la rue et de ses activités criminelles. Son frère accepte et effectivement James crée un studio à Shepherd Street dans sa concession automobile. C'est ainsi qu'est né Rap-A-Lot Records. D'autres artistes ont commencé à venir au studio et c'est comme ça qu'ils repèrent Rahim et Sir Juxbox, deux jeunes qui essaient de rapper. Ils convainquent leurs parents d'emménager chez un ami à lui, NC Trahan, en leur assurant que les deux jeunes termineront leurs études tout en faisant de la musique. Le groupe Ghetto Boys se forme à ce moment-là. Au début de Ghetto Boys, James n'était pas très impliqué dans leur carrière. C'est surtout son ami NC Trahan qui est derrière eux. Mais la naissance de son fils va changer petit à petit sa mentalité. Et c'est surtout après avoir vécu une déception de par sa mère qu'il aura un électrochoc. Il découvre qu'elle est addict au crack. En effet, elle le vole alors que, grâce à lui et ses efforts, il a pu lui acheter une maison. Il passe alors tout son temps et les mois suivants au studio avec les Ghetto Boys pour tenter d'oublier cet événement et changer ses idées. Un jour d'automne 1988, assis par terre dans sa chambre avec son fils dans ses bras, il se met à pleurer. À cet âge-là, il est déjà multimillionnaire, mais il sait qu'avec la vie qu'il mène, il est qu'un cadavre ambulant. À 24 ans, déjà un tiers de ses amis sont morts à cause de fusillades ou à cause de l'usage de drogue. La moitié des survivants sont en prison. Cette nuit-là, il va décider de tout abandonner. Son statut dans la street, sa maison, ses voitures et tout le luxe. Tout ça pour se lancer dans le business du rap de manière légale. Car Freak est leur premier single. J'ai réussi à faire passer leur single dans les boîtes de nuit. Même si ça ne fut pas un grand succès, le single a eu le mérite de mettre en lumière les forces et faiblesses de chacun des membres. Mais aussi surtout d'obtenir un deal de distribution avec A&M Records. D'ailleurs, un DJ du nom de DJ Ready Red s'est joint à l'équipe suite à ce son. Et il est devenu très rapidement le DJ attitré du groupe. Cette année, plusieurs mois après s'être lancé dans l'aventure de son label, Jay vit endetté, car son label coûte plus cher ce qu'il ne rapporte. Et comme c'était retiré des affaires de rue, il s'avère difficile de rendre rentable sa concession automobile. Lui qui était toujours connu pour avoir de l'argent, était devenu pauvre. Payer ses factures alors lui devenait difficile. Aussi, il décide de renvoyer son frère qui allait rater séance sur séance de studio, des réunions importantes, et a commencé à se droguer sur le lieu de travail. Cliff Bridget, ingénieur informatique à Seattle, entendu qu'une scène rap à Houston se construisait. Il prend alors toutes ses possessions, les met dans son véhicule et sillonne Houston pour en être. Il a aussi notamment entendu parler des Ghetto Boys. C'est en se renseignant que quelqu'un le dirige vers la concession automobile de James. Ils discutent alors ensemble et deviennent rapidement partenaires. Cette rencontre est un salut pour Jay Prince. Ghetto Boys sortent leur premier album, Making Trouble, qui n'est pas non plus un grand succès, mais permet de se construire une fanbase. Le rap de Ghetto Boys du début est du même style que celui de Run-DMC, qui est très populaire à l'époque. Dans les thèmes comme dans la forme. Un soir, Jay rencontre Vanilla Ice en boîte de nuit. Il l'invite au studio et Vanilla commence à lui faire écouter ses sons. Parmi eux, Ice Baby. Il reste deux semaines au studio de Jay. Jay dit à Cliff de le signer, car c'est lui qui s'occupait de l'administration du label, et lui plutôt de la promotion et attirer les artistes. Mais malheureusement, Cliff ne le fait pas, car il ne croit pas du tout en lui. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il doit prendre la pleine responsabilité du label. Surtout que Ice Baby devient un énorme carton que l'on connaît aujourd'hui. Cliff veut relocaliser Rapelot à New York, un mec du hip-hop. James n'est pas trop d'accord en premier lieu, mais c'est ce qu'on va. Au final, l'expérience n'est pas du tout convaincante. Mais ça sera l'occasion pour Jay Prince de se reconnecter avec Lior Cohen, un jeune manager de Rush Entertainment et Def Jam avec un fort accent israélien. Le courant passe très bien entre eux. Il l'avait rencontré une première fois à un concert de Run DMC. Lors de son séjour à New York, il passera beaucoup de temps avec et chez Def Jam pour s'imprégner de l'atmosphère. Le jeune manager de Def Jam répond à toutes ses questions, toutes les questions qu'il a sur le métier. Mais il ne se sent pas de rester à New York alors qu'il représente la ville de Houston. Il décide de partir et demande à toute son équipe de retourner au Berkay. C'est en 1988 que celui qui fait ses débuts sous le nom d'artiste de DJ Asken signera sur le label Rapelot Records et intégrera le groupe Ghetto Boys, tout comme Willie D en remplacement de Sia, Jukebox et Johnny C. Si le premier label du crew, Making Trouble, sorti en 1988 avec la formation d'origine ne fut pas un succès, ce changement de casting fera lui des étincelles. Le nouveau quator est formé de DJ Asken, qui sera rebaptisé Scarface, Willie D, Bushwick Bill et DJ Ready Wade. Un résultat à la hauteur des attentes avec à la clé un second album, Grip It on That Other Level, référence qui donnera au rap du sud ses premières lettres de noblesse, mais aussi au label Rapelot son premier classique. Les radios locales contrôlées par les DJ de la East Coast boycottent le projet. Après avoir demandé plusieurs fois de passer les disques de ces artistes, Jay dégage plusieurs DJ de Houston par des moyens peu conventionnels, en leur faisant comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus à Houston. En 1988, suite au refus de Russell Simmons de soutenir le groupe de heavy metal Slayer et de désaccords violents avec Lior Cohen, Rick Rubin quitte Def Jam. Il part avec le groupe de metal Slayer à Los Angeles. Il crée alors le label Def American. À la suite d'une rencontre entre Rick et les Ghetto Boys, un contrat les liant est signé par les deux parties à travers Rapelot. Ghetto Boys avec deux T devient Ghetto Boys avec un T. Robin avait l'énorme machine de distribution de Geffen Records derrière lui, qu'il avait utilisé avec succès pour pousser ses artistes controversés tels que le comédien Andrew Dice Clay et Slayer, un groupe de heavy metal tendance satanique. Mais Geffen recule devant les Ghetto Boys et refuse de distribuer leur album éponyme, même s'il contenait une grande partie du contenu de Grip It on That Other Level, mais avec quelques remixes, donc ça devait être un succès avéré. Il faut dire que peu de temps avant, Two Live Crew avait fait scandale par son langage cru et torride, ce qui avait scandalisé les médias. De plus en plus de médias ont écrit sur un titre de leur précédent album, Mind of a Lunatic, titre dans lequel les paroles hardcore, voire même d'horreur, de Bushwick Bill décrivent un psychopathe qui commet un viol et des actes de nécrophilie. Finalement, Robin trouve un distributeur pour Ghetto Boys, Warner Bros. Et sur la pochette de l'album, on peut y voir ce sticker. Def American Recordings est opposé à la censure. Notre fabricant et distributeur, cependant, ne cautionne ni n'approuve le contenu de cet enregistrement, qu'il trouve violent, sexiste, raciste et indécent. Un LP qui donnera une seconde vie à leur classique et qui installera définitivement le groupe au premier plan de la scène rap, offrant au sud un peu plus de lumière entre deux énormes mégalopole de l'industrie que sont New York et Los Angeles. Et tout ça même s'il n'a pas atteint le même niveau de vente que NWA ou Two Live Crew qui ont reçu le même type de publicité. Au départ, James avait signé l'accord avec Robin parce qu'il voulait que David Geffen soit derrière le groupe. Mais vu la réaction de Geffen, il a pu finalement convaincre Rick Rubin de se défaire de son contrat avec Def American. Puis, il a réussi à conclure un accord avec Priority Records. Une fois qu'il était établi que Rapelot pouvait vendre beaucoup de disques, toutes les maisons de disques qu'il avait refusé de travailler avec le label, essayer de reprendre contact. Mais ce qui était attrayant avec Priority d'après James, c'est qu'ils étaient indépendants aussi et établis, avec un important contrat de distribution. Mais aussi, ils avaient des gens qui savaient comment travailler correctement avec les disques au détail, ce qui était un avantage sur beaucoup de maisons de disques. C'est le troisième album du groupe, We Can't Be Stopped, qui va faire vraiment exploser le groupe. Robin ne sera pas impliqué dans le dernier album des Ghetto Boys. Rapelot a maintenant un accord de distribution avec Priority Records, le label qui a présenté au monde NWA. We Can't Be Stopped sera certifié or puis platine début 1992. L'histoire derrière la pochette de l'album est tout aussi incroyable. Bushwick Bill, qui a 25 ans à ce moment-là, en 1991, s'est drogué au PCP. Et après avoir bu une bouteille d'alcool Everclear qui peut atteindre les 95 degrés, il se tire dessus dans l'œil après une dispute avec sa copine. Et une autre version aussi qui est tirée d'une interview de Vice avec lui en 2016, qui suggère que c'est sa mère qui lui a tiré dessus après que Bill ait élaboré un plan sous l'influence de l'alcool et des drogues pour gagner de l'argent grâce à une nana qui a l'assurance. Quoi qu'il en soit, la photo qui figure sur cette pochette de l'album a été prise peu de temps après que Bushwick Bill a été pris en charge par l'hôpital. Scarface, Willie D et plusieurs associés de Ghetto Boys ont convaincu Bill de prendre une photo à l'hôpital pour la couverture de l'album, ce qu'il a accepté. Le single Mind Slaying Tricks on Me, l'hymne de la paranoïa le plus célèbre du hip-hop, va inspirer toute une génération de rappeurs à rimer sur le stress de la vie de gangsta. Ce single, avec précédemment Assassin et Mind of the Lunatic, vont contribuer à jeter les bases de l'émergence du horrorcore. La version clean de Mind Slaying Tricks on Me montera jusqu'à la position 23 du Billboard Hot 100, et cela sans support des radios. Il aura fallu 7 ans pour Jay Prince et le groupe Ghetto Boys pour enfin connaître le vrai succès et gagner le respect du hip-hop new-yorkais. Les lecteurs de The Source, un magazine de hip-hop réputé, ont élu Mind Playing Tricks on Me comme meilleur single de rap de 1991. Jay Prince a ouvert la voie que tout le monde a pu suivre. Il a commencé à sortir un nombre fou de disques par an. Aucun label ne fonctionnait comme ça à l'époque. C'est la formule qu'ont suivi No Limits, Cash Money et Suave House, trois autres labels du Sud. Et ils ont tous eu de la réussite. Jay a réussi à contourner le boycott et le contrôle de la East Coast et a réussi à reconquérir le Sud. Parfois par des manières pas très jolies. Mais ses actions ont porté leurs fruits. C'est une des explications pour laquelle le hip-hop du Sud est si dominant aujourd'hui. À un moment donné, Rapulot n'était pas seulement le plus grand label de Houston, mais de l'ensemble du Sud des États-Unis. D'après Prince, dans une interview accordée à la NPR en 2012, c'était comme des mouches pour du miel, comment les rappeurs sont venus au Rapulot au milieu des années 90. En dehors de Ghetto Boys et de ses membres, le label a donné un coup de fouet aux carrières de Devin the Dude, Slim Thug, Lil KK, Zero, Trae, Pimp C, Bun B, Lil Flip et beaucoup d'autres. C'est aussi un label incontournable pour des groupes et artistes en dehors de Houston, comme Do or Die, Yuck Moth, Loonies, Outlaws et plus encore. Les albums les plus remarquables de Rapulot comprennent l'album Epoine de Ghetto Boys, The Jerry de Scarface, Quill de Bun B, Pimpalation de Pimp C, Devin the Dude's Waiting to Inhale Something and Something Serious de Bill Mike. À la fin des années 90, l'attention du hip-hop est passée des côtes ouest et est vers le sud. Le fondateur du label new-yorkais Def Jam, Russell Simmons, voulait capitaliser sur le succès du rap du sud. Il a recruté ainsi Scarface, une légende du rap du sud et ancien membre des Ghetto Boys pour diriger le label. En 1999, le label est créé. En 1994, le rappeur californien Yuck Moth, membre du groupe de Loonies, fonde Smoke-A-Lot, une filiale de Rap-A-Lot. Il est distribué par Rap-A-Lot et Hazilum et abrite des artistes tels que The Loonies, Drew Down, Thug Lords, The Regime et Yuck Moth. Bientôt, Rapulot devient le Def Jam du Sud. Il abrite des artistes tels que Zero au début des années 2000 après son passage avec Screw Up Click, Divine the Dude, Do or Die, Big Mike et les deux membres de UGK qui ont sorti des albums solo très acclamés par la critique. En 2015, Jay Prince s'attaque à Cash Money pour la mauvaise gestion présumée des redevances de Drake. Le fils de Prince, Jazz Prince, est crédité d'avoir découvert Drake et de l'avoir porté à l'intention de Lil Wayne et de son label Young Money Entertainment. En 2015, Jay Prince s'attaque à Cash Money pour la mauvaise gestion présumée des redevances de Drake. Le fils de Prince, Jazz Prince, est crédité d'avoir découvert Drake et de l'avoir porté à l'attention de Lil Wayne et de son label Young Money Entertainment. Jazz a finalement été réglé 11 millions de dollars par Cash Money Records. Lil Wayne a même exprimé son empressement en 2016 à faire de Rapulot sa maison une fois sa bataille juridique terminée.
Voici pour la story. Vous trouverez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes. Le lien en description. Allez, wesh wesh yo.